C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Bonne Toile, le podcast qui parle de cinéma par genre et par salve de 3. Et aujourd'hui, on aborde un nouveau cycle, un cycle que je suis très heureux d'aborder parce que je pense que personne n'en parle à part les deux invités que j'ai avec moi pour ce cycle-ci. Donc on va aborder les Stoner Movies et pour parler des Stoner Movies qui sont donc les films sur la weed, j'ai, je pense, les deux experts en la matière du YouTube game français, Punky.
Yo!
C'est là où tu dis bon, voilà. Et Ace Modey.
Hello.
De la chaîne Low Film.
Yes.
Voilà, donc je suis très heureux de vous accueillir dans ce podcast. Pour info, à cause du confinement et du fait que on est géographiquement pas du tout au même endroit. D'habitude, j'essaie d'enregistrer en physique. Là, pour le coup, on est à distance, donc la dynamique ne sera pas nécessairement les mêmes que d'habitude.
C'est dommage, t'auras pas les odeurs.
Donc c'est dommage, on peut pas passer le joint.
Ouais, exactement. C'est vrai que, ouais. Alors voilà, pour info, on a Ace et Punky qui se sont allumés un petit ouinge pour parler des films de ce cycle. Et donc, avant de commencer de parler du premier film, qui est donc, c'est toi qui l'as choisi, Punky, tu nous as
oui.
parlé, tu as choisi quoi comme film ?
Moi, j'ai choisi un stoner qui, pour moi, a le meilleur du stoner à l'intérieur, c'est Smiley Face de Greg Araki.
Donc, Smiley Face, 2007, Greg Araki. Mais avant de parler de Smiley Face, j'ai envie un peu de parler globalement du stoner movie. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Si je vous dis stoner movie, vous pensez à quoi ? Vas-y, Ace, tu commences.
Déjà, film marginal.
Ouais, en France, en tout cas. Parce que c'est vrai que c'est une culture très ricaine. Hein.
Ouais, c'est une culture très ricaine. On a quelques stoners en France. On essaye. Mais,
non.
On essaye. Il y a des essais. Il y a des essais. On va pas parler d'un certain monsieur Y.
Non, on parlera pas de lui.
Spécialisé dans les copies de films américains. Mais, par exemple, récemment, il y a eu Five. Voilà, avec Pierre Minet.
Vrai que Five est un stoner movie, ouais, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Ouais.
On n'y arrive pas, hein. En France on a du mal.
Non, c'était pas bien Five.
Ouais, mais c'est parce que la beuh est beaucoup moins présente dans notre culture qu'aux États-Unis où c'est légal maintenant dans la majorité des États, et c'est un truc qui fait partie de leur ADN. Quoi. Nous, c'est présent mais caché, donc c'est pas... On va dire que c'est présent sans l'être.
La France a oublié son passif de cultivateur d'herbes hallucinogènes, de son passé druidique, j'ai envie de dire.
Ouais, il y a de ça. Et puis en France, on a une politique qui est beaucoup plus restrictive et beaucoup plus agressive concernant la weed. Les mentalités ont très peu évolué ces dernières années, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis. Du coup, c'est un genre, moi, pour répondre à la question que tu as posée, c'est un genre qui me parle aussi parce que pour moi, les meilleurs stoner movies ont été faits quand c'était encore illégal aux États-Unis. Parce qu'on avait le même rapport en France avec ça, et du coup il y a un phénomène d'identification qui est beaucoup plus simple, là où les stoner movies, quand c'est légal, on a plus ce côté observateur et comment ce serait si c'était légal chez nous, quoi.
Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Alors, pour rapidement définir le stoner movie, on est d'accord que c'est, pour moi, hein, vous me dites si je me trompe, c'est un film où un personnage majeur va fumer de la drogue et en parler. Bon, pour moi, c'est la seule vraiment définition du truc. Après, est-ce que vous en voyez d'autres ?
Pour moi, il faut que la marijuana participe à élever le film. Parfois, un film ne peut pas être... ne se revendique pas stoner, et pourtant, il y a un personnage qui va être stoner, et la marijuana va servir d'élément Deus Ex Machina vers la fin.
Bah, tu nous en parleras dans ton choix, dans le film de la semaine prochaine.
Exactement.
Pour le coup, parce que c'est clairement ça. Mais c'est vrai que voilà, pour moi, d'habitude, c'est des films qui tournent vraiment autour de la consommation de beuh ou la beuh est présente. Mais vas-y, Punky, t'as l'air d'avoir un peu plus de...
Je suis assez d'accord. Mais aussi, moi, je rentre beaucoup dans la catégorie des films qui sont très agréables à regarder. En fait, pour moi, le stoner movie, ça définit pas un genre de film. C'est comme le porno, c'est plus ce que tu vas faire en le regardant, tu vois. C'est le réalisateur est exactement au courant de dans quel état tu vas regarder le film. Tout comme le porno, on fait un porno parce qu'on sait que t'auras le sgeg à la main, tu vois, ou la flûte au bec, tu vois, ce que tu veux. Mais le truc, c'est que, le réalisateur sait, le réalisateur est conscient
ouais, non, mais t'as raison.
De l'état dans lequel les spectateurs vont être. Et du coup, il y a un jeu avec ça.
Non, mais c'est vrai, par contre, je pense à une série qui est Adventure Time, qui est une série qui est totalement une série de stoner, même s'il n'y a jamais de drogue dans la série. Mais c'est vrai qu'elle parle directement aux gens qui sont stone, parce qu'il y a un rapport dans les références, dans la manière de détourner l'univers d'une autre qui te connecte avec, avec le toit défoncé, quoi.
Bien sûr.
Et donc je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a, c'est vrai que cette catégorie, enfin cette prise en compte de l'état d'esprit du spectateur.
Mais et parfois c'est même pas de la volonté propre du réalisateur. Moi par exemple, un film comme Speed Racer, je le mets dans la catégorie des stoner movies parce que c'est tellement over the top.
C'est tellement psychédélique.
Pour un public comme ça, c'est du pain béni, tu vois. C'est vraiment un film que tu vas voir et revoir avec plaisir, parce que c'est un film qui te procure beaucoup de choses, beaucoup de sensations. Et vu que quand tu es éveillé de cette manière, tu es très réceptif. Des films comme Speed Racer, qui sont très mainstream et qui sont pas du tout faits pour ça, peuvent devenir malgré eux des stoner movies.
Tout ce qui joue sur la synesthésie, en vrai.
Exactement, en fait. Mais c'est plus l'état du spectateur que réellement la volonté du film. Même si évidemment dans les stoner movies, y en a qui se revendiquent stoner, et dans ces cas-là, c'est justement, c'est une espèce de prétention de se revendiquer stoner. Donc il y a des films qui se revendiquent stoner qui sont des bons stoner, il y a des films qui se revendiquent stoner qui sont des mauvais stoner, et des films qui ne se revendiquent pas stoner qui sont quand même des bons stoner. Je pense qu'on peut les classer comme ça. J'espère que j'étais pas trop rapide et pas trop brouillon, mais
non, mais t'as très bien ouvert l'horizon vers en fait quelque chose de fondamental, qui est que le stoner movie, c'est avant tout un état d'esprit avant d'être un sujet. Et je pense que ça, c'est vraiment important, parce que ça, finalement, c'est un peu ce qu'est la beuh. Je veux dire, moi, j'ai été stoner, je suis plus stoner pour info, j'ai arrêté de fumer, mais j'étais stoner 3 ans de ma vie, intensément, donc de 2010 à 2013. Et c'est vrai que...
C'est pour la police que tu donnes les dates.
Non, c'est parce que j'étais au Canada, et donc je m'en souviens très bien, c'était ma culture canadienne.
Bien sûr.
Parce que je me suis un peu adapté à leur culture, et ils sont très stoner là-bas. Et c'est vrai qu'il y a un côté où tu parles beaucoup de la beuh parce que ça te concerne, mais à la fois c'est toute la manière dont tu vas parler des choses qui fait de toi un stoner plus qu'autre chose. Plus que de parler de la beuh, c'est pas un sujet en soi, même si c'est toujours agréable de parler comme les amateurs de vin parlent de vin, quoi. Mais c'est l'ivresse avant toute chose. Et cette notion d'éveil, comme tu l'as dit, c'est le bon mot, je pense, qui va définir ton état d'esprit et la manière de réfléchir aux choses. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont extraordinaires à faire quand t'es stone, qui ont beaucoup moins d'intérêt quand t'es sobre, et vice versa. Il y a des choses qu'il vaut mieux pas essayer de faire stone. Et on va justement pouvoir le traiter dans le film.
C'est pareil avec toute forme d'art, hein, la musique, la BD, les jeux vidéo, il y a des stoner games. C'est pareil pour tout art, je pense que justement, encore une fois, c'est un truc que je reviens souvent, mais si vous vous intéressez à ça, lisez Les Paradis Artificiels de Baudelaire. Il parle beaucoup de l'éveil que ça procure en termes de sensations et de ressenti, d'émotion, d'empathie, de tout ce que tu veux, et comment ça peut t'ouvrir à l'art alors qu'à la base, tu connais rien du tout ou tu t'y intéresses pas.
Bah écoute, j'ai jamais entendu parler de cet essai ou ce roman de Baudelaire, mais...
C'est un recueil de poésie ?
Alors non, c'est même pas un recueil de poésie, en fait c'est... Alors si vous l'achetez en France, c'est avec un autre recueil de Théophile Gautier, dont je ne me souviens plus du nom, mais en gros c'est Théophile Gautier et Baudelaire qui sont copains comme cochons et qui prennent de la confiture au shit. Et après ils écrivent ce que ça leur fait. Théophile Gautier, il aime moyen, Baudelaire il est à fond. Baudelaire, c'est un stoner, tu sens qu'il attendait que ça. Théophile Gautier, il est un peu de droite, il est un peu... voilà. Alors que Baudelaire, il va te lier ça à la labeur ouvrière, à l'alcool, à des trucs très intéressants. C'est un super bouquin sur la drogue en général et sur les psychotropes en général.
D'accord. Eh ben écoute, vous avez noté, si ça vous avez envie d'approfondir, le sujet. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans le film du jour. Donc, Smiley Face, Greg Araki. Avant de rentrer un peu en détail, j'aimerais bien que tu nous pitches le film, Punky, s'il te plaît. De quoi ça parle, Smiley Face ?
Alors, Anna Faris est actrice débutante, en tout cas, actrice wannabe à Los Angeles, donc à Hollywood. Sauf que elle a quitté ses études pour faire ça, et plutôt que de vraiment faire ses castings et ses trucs, elle passe son temps à fumer dans le canapé de son coloc. Et acheter des trucs sur eBay. Et un jour, elle a la dalle et elle se mange le paquet entier de cupcakes qu'avait préparé son colocataire. Et sauf que les cupcakes, en fait, étaient des space cupcakes. Et donc, du coup, elle s'en rend compte très rapidement. Et c'est parti pour une journée où, évidemment, elle avait 36 000 choses à faire. Une liste comme pas possible de, d'argent qu'elle doit, de loyers à payer, de factures, de rendez-vous, de ce que vous voulez.
À faire,
la pire journée ever que tu dois faire dans le pire état ever. Et voilà. Et je pense que ça résume assez bien le concept du film.
Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment... Il y a Bill Murray, il vit un jour sans fin. Elle, c'est un jour très très défoncé. Voilà, c'est juste
exactement,
ça.
Très très long et très très défoncé.
Ouais, voilà, parce que c'est faut le dire. En plus, c'est ça qui est drôle, c'est que l'effet de la bœuf quand elle est mangée, c'est beaucoup plus peut-être.
Ça dure 8 heures en moyenne.
Voilà, c'est beaucoup plus long et surtout il y a un côté beaucoup plus lourd, quoi. Enfin, c'est très physique comme sensation. Ça te pèse un peu.
Ouais.
Et donc, je trouve ça plutôt bien retranscrit dans le film. Ouais. Donc, à partir de maintenant, on va spoiler. Hein, voilà, si vous n'avez pas vu le film, n'hésitez pas à le découvrir. Il n'est pas évident à trouver. Moi, j'ai dû le choper en téléchargement, mais parce que il est sur Canal, dans le Panoply Canal.
Il a été sur Amazon Prime pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, il était sur Amazon Prime en VO et VF. Ou non, que en VF d'ailleurs. Et il a disparu. J'ai pas compris. Il y a carrément un site internet qui a fait une news dessus en mode « Oh, Smiley Face est enfin disponible en VOD quelque part. » Et 2 semaines après, il a disparu. J'ai pas compris. Je sais pas ce qui se passe avec les droits de ce film.
J'ai vraiment eu du mal à trouver. Il y a pas de Blu-ray. Enfin, c'est galère.
Je pense qu'il y a une petite théorie, mais... Punky en parlera un peu plus tard sur le message politique du film.
Il y a une question, justement, sur les théories. Alors, Ace... J'ai envie de te poser une question, j'ai envie de te demander tout de suite, d'emblée, le plus gros défaut du film.
C'est dur, c'est un film que j'aime beaucoup.
Ah, c'est pas évident.
Je pense que s'il y aurait un défaut, en soi ça n'est pas un, mais il peut être rebutant pour le grand public, c'est vraiment son côté archi. Il faut dire que la réalisation de Greg Araki, elle est vraiment poussée, elle est très stylisée, etc. Donc je le mets un peu dans le même panier que Sorry to Bother You. Un film récent.
Exactement, ouais, c'est vrai que c'est dans la même.
Pour moi,
la même lignée,
c'est presque un stoner, et en tout cas, c'est le même message politique, en tout cas, c'est dans la même lignée. Et ouais, la réalisation de Greg Araki, elle est assez poussée quand même, même si il faut reconnaître que je pense que Smiley Face est le film le plus facile à regarder de Greg Araki. Pour moi, en tout cas,
c'est sa seule vraie comédie, quoi.
Voilà, déjà, c'est sa seule comédie. D'habitude, ouais, il parle de sujets assez dark et tout. Donc, moi, en tout cas, ça a été une très belle porte de.
Ouais, comment tu l'as découvert ? Je t'ai pas posé la question, mais quelle est ta relation avec Smiley Face ?
La mienne ?
Ouais. il va nous dire après.
La mienne, c'est tout con. C'est vraiment au bout d'un moment. Quand on a découvert les Ohai, les Jason, Bob, Contre-Attaque, tous les stoners un petit peu de base, on commence un peu à pousser, et c'est là qu'on commence à tomber sur des œuvres comme Smiley Face, où c'est vraiment du stoner pour... j'ai pas envie de dire pas pour amateurs, mais vraiment... ouais, du stoner.
Pas pour... Qui parleront particulièrement aux stoners.
C'est ça, du stoner exigeant.
Un peu réaliste, quoi. Enfin,
c'est du stoner
exigeant. C'est un bon terme. En tout cas, pointu, peut-être.
Ouais, pointu. Après, c'est un trip aussi. Il faut accepter. C'est un peu que... C'est du cinéma presque expérimental.
Pour le coup, j'ai hésité à inviter quelqu'un qui n'aurait pas du tout été stoner pour parler de ses films. Et bon, je pense que si on avait fait en physique, je l'aurais fait. Mais là, à distance, j'avais pas envie d'encombrer un peu la discussion avec un autre point de vue. Ça aurait été intéressant. Donc voilà, c'est juste pour préciser. On a tous les trois vu ce film... probablement défoncé, moi à l'époque et pas aujourd'hui, pas quand j'ai vu là, mais voilà, c'est-à-dire que et pour le coup ça m'a pas du tout fait le même effet, donc j'en parlerai un peu après justement. Punky, toi en fait c'est toi qui as choisi le film à la base, quand je t'ai demandé un stoner movie tu m'as dit celui-là, donc pourquoi c'est celui-là que t'as choisi en fait?
Bah comme j'ai dit, c'est un film qui déjà c'est un des films qui décrit le mieux les effets de la weed sur ta psyché, je trouve. Enfin,
ah ouais, je suis d'accord avec toi.
Et surtout ce que ça peut engendrer comme marginalisation par rapport au monde qui t'entoure. C'est-à-dire
ouais,
que...
De marginalisation ultra soft, enfin, tu sais, de marginalisation banale, quoi, en fait.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est que, un des trucs que j'aime dans ce film, c'est que le monde est toujours trop violent pour Anna Faris, pour le personnage de Jane. Le monde est toujours trop agressif. Elle est tellement pacifique, elle cherche jamais la merde, mais elle se met dans des situations dans lesquelles elle voudrait pas être parce que elle est considérée comme à l'ouest ou comme voilà, un peu en retrait.
Comme lente un peu, ouais.
Enfin. Voilà, lente ou un peu absurde, un peu dévergondée, dans le sens où parfois... elle fait ce qui lui passe par la tête, il n'y a pas de filtre, elle dit ce qui lui passe par la tête, c'est vraiment, je sais pas, je trouve que c'est un film qui montre bien que c'est pas une drogue en soi, mais que c'est plus un médicament contre le monde, tu vois, mais une façon de se protéger du monde qui t'entoure, qui parfois peut être blessant, peut être violent, peut être te mettre de la pression, c'est une ode, c'est presque ouais une ode à rester dans l'imaginaire, quoi. Je sais pas.
Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est marrant parce que moi, tu peux le percevoir d'une manière totalement opposée. On va en parler un peu après, je pense, parce que. Le film, en fait, selon si tu acceptes, de quel monde t'acceptes la légitimité, tu vois, tu peux le voir comme, soit c'est vraiment, en fait, regarde, c'est un film anti-drogue, soit en fait, non, c'est un film clairement pro-drogue.
C'est ce que j'aime avec ce film. Parce que la fin, elle est très, on en reparlera peut-être, mais la fin est très, elle est très douce déjà, elle est très très douce, je trouve, et elle est très réaliste au final. Mais il y a quand même un sous-message qui dit, enfin voilà, pour toi qui te souviens de la fin, certes, elle fait des travaux d'intérêt généraux, elle est punie pour un crime entre guillemets, je mets des guillemets, ou un délit.
Ouais, c'est juste elle a fait une connerie, quoi.
Voilà, elle a fait une bêtise.
De la bêtise qu'elle a faite.
Exactement. Et donc elle est punie pour ça. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils la font ramasser des déchets sur l'autoroute. Donc elle est d'une part utile à la société. Il y a un message qui est très intéressant. Et d'autre part, en étant en marge, on lui fait ramasser la merde de ceux qui ne le sont pas et qui ont choisi de ne pas l'être. Et ça, moi, je trouve que le film finit par un constat d'injustice qui est
surtout
très
intéressant. Surtout qu'elle est heureuse. Enfin, elle ne montre pas de colère ou quoi dans sa position.
Non, il n'y a pas de colère. C'est très doux, justement. C'est très...
Et elle avait aussi un peu besoin de ça, hein, d'une certaine manière. Enfin, c'est aussi, elle est allée au bout d'un...
Mais elle est toujours aussi stone. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, ouais, c'est vrai que c'est dur à expliquer d'ailleurs. C'est ça qui est drôle.
Mais parce qu'elle a choisi de l'être, tu vois. Il y a ce côté. J'ai choisi de fuir le monde et ce monde m'offre. Voilà la seule porte de sortie que m'offre ce monde. Ramasser la merde des autres. Et s'il faut apprendre à être heureux comme ça, et soyons heureux comme ça, tu vois. Il y a une espèce de morale qui démontre une injustice, mais qui est sans colère, tu vois, qui est vraiment plus un constat. Greg Araki n'est pas stoner.
Et ça sent d'ailleurs, dit, par moment, ça sent.
Ça se sent. Il est pas stoner.
Il exagère trop.
Il a déjà fumé, mais il s'est surtout inspiré de très bons amis à lui qui, eux, étaient stoner et qui avaient cette philosophie de vie aussi et cette insouciance, tu vois. Donc, il y a un vrai. Et il a dit qu'il a voulu rendre hommage à ces stoners-là parce qu'il les trouvait trop cool et qu'il les trouvait.
Ça explique certains trucs, hein, parce que c'est vrai que tu vois, il y a des moments où elle a des vraies hallucinations visuelles, genre dans la voiture où elle visualise des vrais, c'est-à-dire autant des choses qui bougent. Bon, ça, tu peux la voir quand
les poteaux qui bougent, ça vraiment, c'est marrant. Les poteaux qui tourner dans tous les sens, c'est très drôle.
Voilà, ça tu peux la voir, mais je veux dire, il y a des trucs où elle voit des choses qui n'existent pas.
Oui, elle voit un diable en costume et tout, c'est marrant, voilà. Mais ça, c'est pour l'effet comique. Je trouve que c'est la deuxième couche. Je pense que justement c'est ça qui est bien dosé dans les effets psychédéliques, c'est qu'il y a toujours un effet comique. C'est toujours c'est pas à des fins de dire regarde, elle voit des trucs. C'est juste pour que le spectateur, parce qu'il sait qu'il s'adresse à des stoners, il sait qu'il s'adresse à ses potes stoners, il a envie de les faire rire avec des machins qui savent que c'est pas vrai.
Est-ce que ça serait pas un easter egg à Jackass? Bon, pour moi ça a toujours été un easter egg à Jackass. Et Virgo
tu penses que c'est une référence au costume de diable de Chris Pontius?
Honnêtement, quand je l'ai vu, alors après je l'ai vu pile à ma période Jackass, mais dans ma tête de stoner, tu vois,
j'ai jamais fait le lien, tu vois, jamais. C'est bizarre, mais ouais, peut-être bien, mais en tout cas, il y a une vraie volonté de... Et c'est ça qui est intéressant dans les stoners, c'est que c'est toujours un peu pareil, hein. Tu prends Harold et Kumar, tu prends M.K.L.O.M.A.K.S., ça parle des effets de la weed, mais ça en fait toujours des caisses pour faire rire les stoners.
Oui, c'est sûr que c'est Patrick Harris qui débarque en licorne.
Exactement. Ouais. Mais parce que en tant que stoner, c'est ce que tu recherches et que t'auras jamais vraiment, tu vois. Donc le film te le donne en mode, il doit être tellement défoncé que, tu vois, c'est un peu ce postulat qui est intéressant.
Tu vois.
Faut savoir que la marijuana, c'est une des, enfin le cannabis, c'est une des rares drogues où tu ne peux pas faire d'overdose.
Ouais, bien sûr.
Tu peux pas faire d'overdose.
Voilà, donc en fait, du coup, et en plus, enfin, c'est toujours le mythe de la beuh tellement puissante que, tu vois, ouais. Comme il a dit, ils sont tellement défoncés que. Et c'est généralement des stades que tu n'atteins jamais parce que tu t'endors avant.
T'as aussi ce concept de la weed mythologique qui revient beaucoup dans les stoner movies. La weed qui est plus forte que les autres. T'as ça dans Smiley Face.
La Pineapple Express, dans Smiley Face. L'Ivory.
C'est ça. Dans
Smiley Face, c'est la weed d'État. Hein,
exactement. La beuh du gouvernement, donc qui est de la
comme
exactement,
dans
comme dans les fumistes. Qui est une beuh pure réalisée en laboratoire du gouvernement.
Comme dans Ali J aussi. Hein. Aussi, voilà. Il a un stock de.
Il a chopé au douane.
Tu vois, c'est un film qui a pas mal de tropes, quoi, de stoner. Je trouve ça intéressant.
Ah, bah ça, c'est clair. On va en parler un peu après. Moi, le défaut que je lui assignerais, c'est. En fait, j'avais adoré mon premier visionnage parce que j'étais dans l'état d'esprit, je pense, adéquat. Et là, c'est vrai que de le revoir sobre, il y a un côté. La structure est un peu. C'est une structure de road trip un peu épisodique où chaque événement n'a pas d'incidence vraiment sur la suite et tant qu'il les rencontre.
C'est un roller coaster en fait, pour le coup. C'est vraiment un roller coaster, je trouve.
Ouais, voilà, mais c'est pas une structure que je trouve finalement très harmonieuse dans la redécouverte du film, quoi. Tu vois, ça fait partie de ces trucs où quand tu le découvres, ça va, mais quand tu sais vers où ça va, t'es un peu dans l'attente et il y a des parties un peu inégales. Donc voilà, c'est un peu le petit reproche, mais c'est quand même. Bon, c'est un petit reproche de structure, et le truc, c'est que je pense que ça m'a perturbé parce que j'étais sobre et que c'est vraiment un film qui te parle très, 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 très de manière intime quand t'es défoncé, quoi, parce qu'il s'amuse avec toi.
Et puis quand t'es défoncé, tu passes tellement d'une scène à l'autre que t'as déjà oublié ce qui s'était passé avant, tu vois, t'es dans l'état du personnage. Et
exactement.
Du coup, comme je dis, c'est un vrai roller coaster parce que tu te laisses vraiment porter jusqu'à la fin, et à la fin, t'as une espèce d'orgasme musical avec les Chemical Brothers, parce que c'est pareil, c'est une OST, Smiley Face, c'est une OST qui est très stoner, c'est de la trance, c'est de l'électro bien planante, donc c'est du Lady Tron et tout. Et je pense que...
Je me rappelle que dans Smiley Face, ce qui m'avait marqué, on l'avait regardé avec Bamboo, que tu connais Punky, et vraiment ce qui nous avait marqué, c'est les rires viscérales. Vraiment, tu vois, où c'est pas une vanne, c'est pas un dialogue qui va te faire rire, c'est juste des fois le visage d'Anna Faris.
La situation, tu sais que t'as eu ce visage,
la situation.
T'as déjà eu ce visage dans la rue une fois quand t'étais
pas
bien.
C'est ça, vraiment, tu te revois et tu dis putain, ok, d'accord.
Moi j'ai envie de savoir, Punky, vu que tout le monde a donné un peu ses défauts, c'est quoi le tien pour toi? Quel est le défaut du film? Le plus gros défaut du film?
C'est difficile à dire. Moi, je trouve que le défaut du film, c'est qu'il est, il peut paraître cryptique, justement, sur son propos. Je pense que Greg Araki aurait mieux fait d'être plus clair sur son propos, parce qu'il y a un propos politique dans le film, mais il est caché sous des sous-couches de blagues et sous des sous-couches de situations et de comiques. Et c'est très difficile de décrypter ce qu'il a voulu dire, sachant que c'est...
Bah, moi, je t'avoue que j'ai toujours cru que c'était un film... un peu anti-drogue en étant tendre avec la drogue.
C'est mais on en reparlera, mais c'est
vas-y,
pour
vas-y.
Moi...
Non, mais vas-y, développe.
Mais écoute,
tiens,
pour
vas-y.
Moi, comme je t'ai dit, déjà, il y a un propos sur Marx. C'est pas anodin qu'elle tombe sur l'original le manifeste du Parti communiste, voilà. Il y a tout un délire sur le marxisme, il y a tout un délire sur la société, de la façon dont elle fonctionne et de la façon dont... Donc, en tant que stoner, tu peux être un grain de sable dans le système. Je trouve que j'ai pas encore totalement décrypté le sens de ce film, mais il y a un vrai délire d'analyse politique à faire dessus, parce que Greg Araki, c'est un auteur, c'est pas quelqu'un qui fait des films sans message, et là il y en a un, mais j'ai l'impression qu'il est bien caché, et c'est pas aussi simple que regardez, les stoners, ils sont gentils et on les fait faire des travaux d'intérêt généraux. Je pense qu'il y a un vrai message sur le système.
Surtout qu'il revient deux fois,
Il est sur toute la deuxième moitié du film, en fait.
Ouais, c'est en plus cette espèce de plan symbolique où il pleut devant
exactement,
tous les personnages du film. Tu vois,
l'air de dire que ça a été rendu au peuple, exactement, et il y a un vrai truc, et justement, tout à l'heure j'ai parlé d'orgasme musical, c'est à ce moment-là que tu as la musique des Chemical Brothers, qui est Surface to Air, donc c'est vraiment un décollage. C'est vraiment, et c'est une musique qui est conçue comme un décollage. Et je sais pas ce qu'il veut.
C'est là où elle, elle embrasse son.
Exactement.
C'est là où elle embrasse.
Exactement. C'est là où elle lâche le bouquin. Elle lève les bras et se met au bord de, donc de la roue de Vénice. Et elle lâche prise en fait. Elle lâche prise. Elle lâche totalement prise. Et je pense qu'il y a un vrai message là-dessus parce que la façon dont c'est filmé, la façon dont c'est mis en scène et la façon dont ça termine par une grosse vanne bien qui est d'ailleurs un des running gags du film. Avec le fameux colloque qui baisse son crâne sous les lumières stroboscopiques. Ouais. Franchement, c'est un truc pour moi qui a du sens. Je sais que ça a du sens, je sais que ça veut dire quelque chose. Il y a un autre truc dans le film pour moi qui a du sens, j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Mais il y a un autre truc qui a du sens, c'est que j'ai toujours pas réussi à décrypter. Mais le travail de Greg Araki sur son film, il est pas anodin. Et comme je dis, c'est pas parce que c'est une comédie que c'est un film qui a moins de sens que Kaboom ou qui a moins de sens que... Doom Generations, quoi.
Est-ce que ça viendrait pas du scénario et parce qu'on parle beaucoup de Greg Araki, mais il faut savoir que c'est un des rares films de Greg Araki qui n'est pas écrit par lui.
Oui, qu'il a pas écrit, ouais.
C'est vrai. Ça.
Et alors, pour le coup, le mec, j'ai regardé un petit peu sa carrière. Il a une carrière d'acteur. Il a joué dans 70 films, dont des Star Trek et tout. Enfin, vraiment, un truc chelou.
Le scénariste ou Greg Araki ? Greg Araki ?
Non, le scénariste.
Le scénariste, d'accord. Ouais, après, c'est vrai que, bon... Je connais pas trop, c'est compliqué de, je veux dire, de juger.
Et vraiment, Smiley Face dans sa carrière, c'est vraiment
anomalie,
un truc à part. Une vraie anomalie. C'est, il a fait des épisodes.
Ça sent un peu un film personnel.
Après,
quoi, sur une bonne
mec,
idée.
Mec, je veux dire, le scénario de Smiley Face, c'est quand même juste une meuf qui prend des space cakes et qui est tellement défoncée qu'elle arrive pas à faire sa journée. Derrière, je pense que Greg a aussi bien réécrit le truc parce que ça pue son style aussi, ça pue sa façon de parler de la jeunesse, ça pue sa façon de mettre toujours les adultes en opposition aux ados, tu vois, aux jeunes adultes. Il y a toujours ce côté générationnel qui est toujours très intéressant.
Le problème de la consommation aussi, avec la scène du matin. Ouais.
Parlons-en de Greg Araki. Vous connaissez bien ce réal ? C'est quoi un peu votre approche de ce mec ?
Je l'ai connu avec Smiley Face. J'ai regardé ses autres films, j'ai aimé aucun de ses autres films. C'est horrible à dire, hein, mais il a fait...
c'est très dark, hein.
Bah, il a fait mon stoner movie préféré, et c'est tout. Genre, après, tous ses autres films, je suis resté ultra insensible, parce que j'aime pas regarder les drames, je regarde quasi que des comédies, ou des films... Enfin, j'aime pas les films qui me font pleurer, je sais pas, j'ai beaucoup de mal à me mettre devant un film dramatique. Et il a fait beaucoup de films dramatiques. Sa seule autre comédie, c'est Kaboom, mais j'ai pas trouvé ça drôle, et j'ai même pas compris le sens du film. Donc, pour te dire, je n'ai même pas compris de quoi ça parle. Je pourrais même pas te résumer le truc.
C'est cocasse. C'est toi, Ace.
Bah, j'ai découvert avec Nowhere, pour le coup. J'ai suivi avec Smiley Face. Nowhere, j'ai découvert vraiment juste par hasard, sûrement une nuit où j'ai traîné un peu trop tard le soir sur Arte, tu vois. Parce que de temps en temps, Arte diffusait des stoners. Enfin, c'était généralement avant Trax. Donc ouais. Tu vois, enfin Trax qui est vraiment une émission stoner pour le coup, enfin moi j'ai toujours
Trax, le sang.
Considéré comme quelque chose de stoner, et donc j'ai découvert le cinéma de Greg Araki par ce biais là, puis après Smiley Face que pour le coup j'ai aimé, alors que Nowhere je pense que j'étais trop jeune pour assimiler un peu de quoi ça parlait. Je l'ai revu il y a pas si longtemps et j'aime pas tellement en fait, et pareil j'étais chaud de Kaboom pour le coup, j'avais grave suivi la hype de Kaboom. Parce que Smiley Face m'avait plu, et Kaboom, grosse déception, et les thèmes qu'il aborde ne me touchaient pas, en fait.
Ouais, moi, j'avoue que c'est un réel, j'ai vu White Bird de lui, quelque chose comme ça, qui est un film un peu dérangeant sur tu vois, des espèces d'amour un peu malsain dans un voisinage de banlieue pavillonnaire américaine. Mais pas ouf. Et c'est lui qui a fait le pilote de, en tout cas, certains épisodes de 13 Reasons Why. Et qui est un peu présent dans
vrai.
La prod.
C'est vrai, c'est vrai.
Et c'était pas les moins bons épisodes. Hein. Franchement, il est quand même habile en termes de réal. Et tu vois, j'ai vu, je me rappelle de mettre Deep Time, il est bien réalisé cet épisode et d'avoir vu son nom à la
non,
fin.
Non, mais il a un style, ça c'est indéniable. Il a vraiment un style. Ouais. Après, je pense que Smiley Face, comme je disais, ça doit être son film le plus grand public. Et déjà, il est pas grand public. Donc,
il a dit que
c'est clairement une comédie indé, indépendante, un peu pointue.
Il a dit en interview qu'il adorait le refaire juste pour bosser avec Anna Faris parce que c'est, il garde un très très bon souvenir de sa collaboration avec Anna Faris. Il a dit que c'était.
Bah, ils ont l'air de s'être bien marrés.
Mais en tout cas, Anna Faris, qui est une actrice de high standing vraiment pour le coup.
C'est, bah, Anna, c'est ce qu'il disait. Il complimentait son jeu. En fait, il disait. C'est pas dur de. En gros, il disait que c'était pas dur de travailler avec elle, quoi.
Alors, genre, j'ai lu que à la base,
c'est une actrice qui a peur de rien.
À la base, il était prévu que ça soit Winona Ryder.
Ouais.
Et c'est Greg Araki qui aurait insisté sur Anna Faris.
Ouais, Winona Ryder, ça aurait pas été la même, mais avec son passif de kleptomane, il y aurait eu un côté méta qui aurait pu être intéressant. C'est pas faux. Alors, on va passer aux questions connes, messieurs. Donc, je vais vous poser des petites questions un peu connes et vous allez répondre comme vous le sentez. Est-ce que vous avez déjà été autant défoncé qu'elle dans la vie?
Je pense que oui et ensemble en plus.
Oui, et oui, et tous les deux ensemble.
Ah ouais?
Ouais, ouais, ouais.
Oh, ça sent le bon souvenir là.
Ouais, c'est un très bon souvenir.
Heureusement qu'on n'était pas perdu dans un centre commercial ou quoi, parce que ça
non, on était juste en train de faire un barbecue et c'était le barbecue le plus. Je crois qu'on a fait le barbecue en plus haute altitude ever.
Ah ouais, moi j'avoue, il y a mon premier voyage à Amsterdam où clairement le choc a été. Enfin, je devais être encore pire qu'elle, vraiment un espèce de zombie qui errait dans la ville avec mes potes.
Voilà, Amsterdam, ils ont l'habitude.
Tu vas t'acheter une pizza et boire une bière et t'as eu l'impression d'avoir vécu l'aventure de ton année, alors que t'as juste rien branlé. Et c'était à mourir de rire.
Ouais.
Et il y a une fois aussi où j'avais gratté mon grinder jusqu'au bout et j'avais fumé vraiment un joint pur de
le pollen.
Ouais, du pollen pur, et j'avais pas du tout calculé le bon moment pour le faire. Enfin, je pensais pas que ça allait être aussi violent. Et alors là, j'avais passé une journée de cours à rien comprendre. Vraiment, j'étais mais un débilos comme elle. Non. Parce que bah, je m'étais totalement fait surprendre par la puissance du
après,
pollen.
Après, le truc, la weed, c'est qu'il y a une limite. Tu vois. La weed, il y a un moment où tu peux pas être plus défoncé que t'es défoncé. Le plus, tu dors, tu vois. Mm-hmm. Plus, tu t'endors et c'est fini. Et le lendemain,
de
tu te réveilles, y a plus
de
rien.
De toute façon, au bout d'un moment, c'est pas comme là, avec l'alcool. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais eu de problème à dire stop à un joint,
ouais.
Tu vois.
Ouais, bien sûr, pareil.
C'est vraiment...
Ah bah, de toute façon, il y a un moment, ça te fait plus d'effet. Donc,
Bah, ouais, c'est même pas que ça te fait plus d'effet, c'est que tu peux pas aller plus haut,
ouais,
tu vois.
Ouais, c'est ça, t'es tellement...
Au pire,
oui, c'est ça, voilà, c'est pas...
Mais par contre, il y a beaucoup de trucs qu'elle vit dans le film, moi, qui m'ont fait penser aux champignons aussi, hein. C'est...
Oui, un peu. C'est vrai qu'il y a un peu... Ça, tu sens qu'il a dû en prendre, Araki.
Oui, oui, mais
c'est pour ça,
il a déjà fumé.
Il y a plus de tropes de films sous MD.
Ouais.
Que de films sous bœufs, en fait. C'est ça qui
MD, ça manque un peu de speed, enfin de
ouais,
de
les champis, ouais, les alus, les machins, c'est très champi, tu vois. Genre,
ouais, ouais, bah les alus, le champi, c'est ça, c'est, tu fixes un endroit et les choses se mettent
à bouger
tout seul.
On connaît pas la composition exacte des gâteaux, il y a écrit Space Cupcake, on sait pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, ça
elle est bonne.
Puissante.
En tout cas, elle est bonne.
J'en veux.
Deuxième question, Con, bah j'allais te demander justement, Punky, est-ce que c'est pas en fait un film un peu anti-drogue, quoi? Enfin,
bah,
Punky,
je pense qu'on a déjà répondu à la question, mais c'est un film qui est tendre, c'est un film qui te fait pas croire que c'est bien, c'est pas un film pro-drogue, mais c'est pas un film anti-drogue non plus, c'est un film sur la drogue.
C'est ça.
C'est un film qui, pour moi, t'explique que, à l'heure où le film a été fait, les gens qui veulent vivre ce mode de vie sont malheureusement des marginaux à leurs dépens. C'est-à-dire que,
bah, donc,
ils ont beau ne rien vouloir faire de mal...
Je trouve que c'est pas anti-drogue.
C'est
anti.
Ah non, c'est juste que le monde n'est pas adapté à ce
ouais,
mode
donc
de vie.
Ouais, donc il critique plus
le marginal.
Pour moi, c'est un film plus anti-capitaliste que.
Ouais.
Ouais, ouais. Après, je dis, hier, quand je l'ai revu, je me suis vraiment dit, ah, c'est pas finalement. Vu que j'étais beaucoup moins en empathie avec elle parce que j'étais pas dépensé, je me suis dit, ah, c'est marrant. Non, mais c'est vrai, je me suis dit, c'est marrant, le film, elle passe beaucoup plus pour quelqu'un qui ne devrait pas faire ce qu'elle fait. Bon, c'est vrai, elle fait des conneries, mais je veux dire, même
ouais, mais...
tu la pardonnes beaucoup moins.
Tu vois, elle fait rien de grave,
fois,
elle tue personne.
Avec elle,
enfin, il y a ça aussi, tu vois. C'est qu'on te montre que elle fait rien de grave, elle tue personne, Tu vois, elle fait pas de dégâts autour d'elle. Elle a juste pris un bouquin et, qui en plus...
Le vrai connard, c'est le mec du parking.
Oui, le vrai connard, c'est le mec normal qui est ultra stress. Le vrai connard, c'est le chauffeur de bus qui l'agresse à moitié. Le vrai connard, c'est le père de famille qui lui casse les couilles parce que son gosse a fait tomber son truc. C'est... Ouais. En fait, le film se démène à te montrer qu'en fait, quitter le système, quitter la vie, c'est aussi un moment d'apaisement. C'est aussi un moment de liberté et qui... va t'attirer peut-être des problèmes dans ce monde, mais qui sont pas des problèmes graves et que qui sont largement. Enfin, tu vois, elle a l'air heureuse dans son pneu à la fin. Ouais. Enfin, tu vois. Par contre, parce que tu me demandais un défaut.
Ouais, ouais, vas-y.
Et
vas-y,
là, j'en ai un. Vas-y. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait un choc direct avec quelqu'un qui est bourré et qui est alcoolique.
Ah, ça, c'est
parce
pas la même.
Que,
hein,
là...
Mais parce que Greg Araki, il a pas un désamour pour l'alcool, et Kaboom en est la preuve. Kaboom est un peu à la manière de Drunk, un gros film d'alcoolique.
C'est ça.
Et
c'est peut-être pour ça que j'ai moins accroché aussi. Mais parce que pour le
moi,
coup,
les films sur la bouse,
là, il y avait un vrai parallèle à faire. Parce que quelqu'un qui aurait été. On t'aurait fait un film sur la même personne, mais qui était alcoolique. Les dégâts, il en aurait fait plus. Et que ce soit psychologique ou physique ou matériel, tu vois, il aurait fait beaucoup plus de dégâts autour de lui.
Il aurait été violent, quoi.
Voilà.
Ce qu'elle n'est jamais.
Elle est jamais violente. Elle est pacifiste de A à Z, vraiment, littéralement. Elle est pacifiste de A à Z.
Ouais, ouais,
et
c'est vrai.
Et c'est ça en fait que te montre le monde, c'est que le système est devenu beaucoup trop agressif.
Agressif, ouais, je pense que c'est le terme, ouais.
Oppressant.
Oppressant,
ouais.
Mais agressif, c'est le bon terme.
Mmh. Ouais, parce que c'est de l'agressivité constante.
Alors, en autre question, j'avais juste envie de vous poser des questions. Est-ce qu'elle n'est pas en fait juste complètement conne? est-ce que, ok, elle est défoncée, mais elle est quand même particulièrement conne, non?
Bah, c'est Anna Faris dans son rôle d'Anna Faris, quoi. C'est Anna Faris qui joue la paumée. C'est trop cool.
Je veux bien qu'on soit défoncé, mais elle est quand même. Est-ce qu'elle est juste très défoncée ou elle est quand même.
Elle est très défoncée, mais elle est un peu conne.
Non, mais elle est surtout très.
Elle est naïve. Elle est très naïve.
Ouais, j'allais dire presque infantilisée, tu vois, dans le sens où,
ouais.
Où elle fait rien de ses journées. T'as son agent qui la rappelle tout le temps à l'ordre. T'as les gens qui lui. Limite, lui font coucou pour lui repas. Tu sais, elle est comme un enfant qui, dès qu'il voit un truc, regarde ailleurs, tu vois. La séquence.
Il y a une capacité d'attention qui est de l'ordre de l'écureuil. Enfin, ça,
c'est ça.
Je veux dire, quand elle fait cuire un truc, le téléphone sonne.
Exactement. L'arrestation aussi, qui est très marrante, elle se fait arrêter avec un ami qui lui est pas du tout stone ou quoi. Et elle est en panique
c'est
parce qu'elle a fait une
John
bêtise. Elle est comme, elle est vraiment, elle se replie sur elle-même, elle essaye de courir, de se cacher. C'est vraiment une enfant qui fait des bêtises, c'est vraiment une enfant dans un corps d'adulte. Je pense que c'est une bonne façon de montrer les stoners parce que, bah, comme je disais, il y a toujours un rapport à l'imaginaire qui est très fort avec la weed. Il y a un rapport aux émotions qui est décuplé. Et effectivement, comme un enfant, t'es très sensible à tout, tu te méfies de tout, tu as à en devenir parano presque parfois. Mais tu, ouais, tu.
Ah bah, il y a la paranoïa est bien retranscrite dans le film.
T'as peur de tout, ouais. C'est un petit chat apeuré. Je trouve pas qu'elle est conne, elle a des décisions qui sont logiques dans sa logique à elle, tu vois. C'est.
Oui, mais c'est vrai que. C'est marrant parce que la première fois que je l'avais vu, j'avais pas du tout eu ce sentiment de voir quelqu'un de con, mais de voir le film de manière sobre, j'ai eu l'impression d'avoir une débile tout. Tu sais, ça m'a énervé de me dire, genre putain, j'ai quitté ce monde.
Alors que quand t'es stone, tu te dis, putain, si ça m'arrivait, j'aurais réagi exactement comme elle, quoi. C'est.
Exactement, ça fait. Tu sais, genre, ça coûte.
Mais est-ce que aussi on est pas un peu con?
Non, mais le coup du compte en banque où elle arrive sur son compte en banque et elle voit zéro s'afficher, elle dit, oh, j'avais au moins 1 000 $ sur le compte, tu vois, c'est vraiment ah ouais, c'est exactement ça. T'arrives de compte en banque,
tu vois, ça m'arrive
tout le temps. Quoi, pourquoi moins et tout, tu vois, mais c'est pareil, c'est
juste le... cette capacité.
Et du coup, tu
bah, c'est mon c'est ma question d'après. Ma question d'après, c'est quel est votre détail de stoner préféré, justement, le petit moment où vraiment c'est un détail de stoner, quoi.
Vas-y, je te laisse commencer si tu veux.
Moi, franchement, c'est l'achat du matelas compulsif. C'est vraiment. En plus, j'aime bien le message. Voilà, ça montre dès que tu laisses un peu de ton cerveau à la télé, on te vend n'importe quoi. C'est sur Internet
c'est
ou à
Internet,
la télé, je m'en rappelle plus.
Sur Internet. Ouais.
Ah, c'est Internet. C'est encore pire. Tu vois, ça a déjà un message sur Internet et ouais, vraiment. C'est ça, quoi. C'est vraiment l'achat compulsif et que tu reçois une semaine après et tu te dis, mais Mais pourquoi j'ai un coussin avec la tête de Jim Carrey
sur le moment? Moi, j'avoue que c'est le moment. Pour moi, c'est le moment où elle est là à dire j'aime les lasagnes, je devrais mettre des lasagnes dans un cadre. Et après, elle dit non, je devrais mettre une photo de Garfield parce que ce serait beaucoup trop méta. Et après, elle dit non, je devrais mettre une photo du président de Garfield. Et si on me pose la question, je dirais bah parce que j'aime les lasagnes. Et genre, et ça, c'est typiquement mais le truc de Stoner où tu te dis mais c'est tellement bien rodé. Genre, dans ma tête, ma logique, elle est implacable. Tu vois, genre, c'est du génie. En vrai, mais c'est super débile.
Moi, c'est le dentiste. Moi, la salle d'attente du dentiste, c'est les bruits.
Ah, le son.
Tous les sons énervants qui sont décuplés quand t'es. Moi, j'ai déjà pris le métro quand j'étais défoncé ou quoi. Et s'il y a un gosse qui chiale, un bruit de frein qui crie, c'est un machin, ça devient très très vite insupportable. Mais depuis, on a inventé le Walkman. et il suffit d'avoir un casque sur les oreilles avec de la bonne musique et plus rien ne t'atteint.
Ouais. Bah, c'est d'ailleurs ce que j'avais noté, c'était le son qui crée tous ces délires. Le son est tellement important quand t'es stone. Et là, il est très bien utilisé parce qu'autant c'est harmonieux quand c'est agréable. Et c'est ultra oppressant quand ça devient...
Le film est très littéral au niveau de ses musiques. Déjà, la soundtrack, il l'utilise très, très littéralement. Et surtout, il y a beaucoup de bruits de cartoon. Il y a beaucoup de trucs qui pop, des bruits qui ne devraient pas exister, qui arrivent pile au moment où elle voit des trucs, etc. Et...
C'est un film qui a un sound design très, très travaillé.
Ouais, c'est assez incroyable. Les voix off et tout.
Je l'ai écouté au casque et ça vaut vraiment le coup, pour le coup.
Tu l'as regardé en VF ou en VO ?
Je l'ai vu en VO.
Ok.
Mais je l'ai essayé de le chercher en VF, j'ai pas réussi à le trouver.
Eh ben, je te le filerai parce que la VF vaut vraiment le coup. C'est Dorothée Pousseau.
C'est Dorothée
Pousseau qui double Anna Faris. Et Dorothée Pousseau...
Dans Scary Movie aussi.
Non, pas dans Scary Movie, c'est une autre que dans Scary Movie.
Pas dans Scary Movie.
Non, c'est pas elle. Mais elle l'a doublé quasi que dans Smiley Face, Dorothée Pousseau. Et juste, elle tient tout le film en VF à elle toute seule, Dorothée Pousseau. Elle a fait un travail incroyable. On y croit 100%.
Et d'ailleurs, en parlant de VF, j'aimerais bien vous poser la question. Qu'est-ce que donnerait ce film s'il était français? Le même film fait en France, c'est quoi?
Ça serait dur.
Ça serait difficile.
Ouais, pourquoi? Vas-y, essayez de trouver un peu pourquoi ça.
Bah, déjà, parce qu'on n'a pas Los Angeles et que c'est un film qui est vraiment lié à Los Angeles,
ouais,
et à Hollywood.
Ouais,
parce que tu peux pas marcher, côté voiture important, elle peut pas conduire, il y a un côté très isolé, enfin, t'es perdu au milieu de cette étendue un peu.
Et c'est très compliqué.
Tu le ferais où? C'est ça, tu le ferais où? Tu le ferais à Marseille?
Ouais, mais non.
Donc c'est à peu près la même ambiance. Les décors, ça y fait beaucoup dans Smiley Face.
Ouais.
Puis même, en fait, la police.
Puis, aussi, Los Angeles, c'est une ville qui est construite comme Disneyland, tu vois. Et du coup, pourrait se balader. Si tu pourrais le faire à Disneyland, tu fais ça à Disneyland. Tu fais des mecs qui sont paumés à Disneyland. Franchement, ouais, parce que y a que en France où on a ce truc d'un endroit où tu peux te perdre. En France, on a des panneaux partout, tout est indiqué. Tu peux tout faire à pied, quasiment. Enfin, je veux dire, tu ferais ça à Paris, ça aurait aucun sens parce que y a que des rues où il se passe rien à Paris, tu vois. Il y a que des rues où il y a jamais rien. Là, elle va dans des lotissements, t'as des gens qui sont dehors, t'as des agents d'entretien, t'as des machins. Je pense que ça serait en France, ça serait difficilement. Je sais pas, l'environnement n'est pas du tout le même.
C'est sûr que son but du film, c'est quand même d'aller quelque part. Et Los Angeles, quand t'es pas en voiture, c'est une aventure en soi,
ouais,
donc, que tu sois défoncé ou pas d'ailleurs.
C'est ça.
Donc c'est vrai que le mec Disneyland, ce serait intéressant parce que ce serait. J'avoue que ce serait un très bon endroit pour exploiter cette espèce de capacité à ne plus réagir aux situations de manière conventionnelle.
Ouais.
Et ce serait une bonne arène en tout cas. Après, faudrait trouver un réalisateur pour le faire et tout. Mais en tout cas, ce serait une bonne
arène. Et même l'actrice, tu prends qui en France? Qui est.
Yann Kounen, allez. Un mec qui mais lui, ce serait, il irait un peu trop loin dans le psychédélique, mais en tout cas, je pense qu'il serait apte à faire ce genre de truc, quoi.
Moi, je voudrais plus, quitte à faire un truc comme ça, il faudrait...
Oui, Igor Gottman, le mec de Five.
Moi, Arthur, mais Kim Chapiron, tu vois.
Ah, pas mal, Kim Chapiron.
Il serait capable, la crème de la crème, tu vois.
Gaspard Noé.
C'est vraiment bon.
Ah ouais, Gaspard Noé, c'est pareil, je pense que c'est...
Ça serait bien qu'il fasse un film doux. Gaspard Noé, ça serait bien qu'il fasse comme Greg Araki et d'un coup qu'il nous surprenne et qu'il dise les gars j'arrive avec une comédie.
Ouais, ouais bah écoute, ça serait... il a un peu ce profil, hein. enfin le profil de Gaspard Noé ressemble.
C'est vrai que c'est le plus logique.
Ouais. Bah, et puis Enter the Void, il y a des grosses scènes stoner les 20 premières minutes donc.
Ouais, même si le parti est pris.
Ah oui, non, ça c'est sûr qu'il maîtrise tout ce qui est psychédélique, il sait gérer le coco.
Oh, parce que c'est un consommateur. Hein.
une question. Il y a pas mal de petits rôles dans le film. Lequel vous a marqué Parce qu'il y a des mecs qu'on verra plus tard dans des films un peu dans des rôles plus importants. C'est quand même un bon film. Tu sais qu'un casting en devenir un peu. Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué? Parce que moi j'en ai 2-3, mais je préfère vous laisser parler.
Moi direct John Cho. Parce que John Cho, John Cho, c'est Harold et Kumar, et il va jouer dans un stoner après, ça va devenir un King of Stoner, mon gars. C'est John Cho qui soit là, et qui soit en plus là avec Danny Trejo, qui jouera son beau-père dans Harold et Kumar 3, c'est juste, t'es trop content.
Tu me l'as piqué. J'étais avant, j'espère que tu vas pas dire Danny Trejo comme ça.
Ah, désolé. Mais tu sais quoi, je prends John Cho, tu prends Danny Trejo, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus. Les deux, le fait qu'ils soient là, c'est...
Ah, franchement, le duo, comme tu dis, vu que ça se répète dans Harold et Kumar 3, c'est vraiment génial.
Mais en plus, ce qui m'a marqué, il y a quand même le Dean de Community, qui a un petit rôle. Il y a deux acteurs de Glee. L'actrice à qui elle parle dans la salle d'attente et la meuf qui lui fait passer le casting. Le chauffeur du bus, c'est un mec qui jouera aussi, qui devient un peu populaire là récemment.
T'as un mec qui joue dans Community, qui joue
Le Dean. L'agent, le mec qui s'occupe de faire passer les castings. Là.
Et puis t'as le mec de The Office aussi, t'as Jim de The Office.
Oui, t'as Jim
Krasinski.
Et t'as aussi, mine de rien, t'as le coloc qui est là. Qui est aussi le mec de The 70 Show.
Ouais.
Qui là joue un peu l'opposé de son Danny rôle Masterson, dans The 70 Show.
Danny Masterson.
Et d'avoir.
Qui a été agressé. Enfin, qui est en ce moment accusé d'agression sexuelle et tout ça. Mais...
Je pense qu'il a vraiment baisé un crâne.
La légende, on ne saura jamais.
Ça se trouve, c'était inspiré d'une histoire vraie.
Petite question, si ce film, je sais que toi ça va te parler, Punky, si ce film était un jeu vidéo, qu'est-ce que ce serait comme style de jeu vidéo?
GTA V.
Grave.
En fait, je vais t'avouer un truc. Nous, on s'est rencontrés grâce à GTA déjà, et c'est moi. On a fait ample connaissance grâce à GTA, et on s'est rencontrés la première fois dans Los Santos, donc dans une reproduction de Los Angeles. Et moi, je vais t'avouer que tout seul, ça m'est arrivé de me balader dans le jeu et de juste essayer de refaire le circuit qu'il a fait pendant le film. C'est-à-dire, donc de commencer à peu près dans les quartiers où elle vit et de refaire tout le tour comme elle a fait. Et alors, c'est difficile de se repérer parce que j'ai pas exactement les rues et j'ai jamais trouvé de vrai plan où ça a été tourné, etc. Mais
oui, je pense pas qu'il y a un vrai.
Mais il y a des endroits qu'on reconnaît, tu vois. Il y a des endroits que j'ai reconnus dans GTA, et du coup, j'ai mes petites étapes où je sais que je peux refaire le trajet de Jane dans GTA. Donc pour moi, GTA.
Genre l'autoroute, Venice Beach. Ouais,
exactement. C'est ça, le freeway, Venice, etc. Ça, tout ça, c'est des trucs qui sont reconnaissables. À un moment, elle est un peu plus loin, elle est à l'extérieur de la ville. Tu vois pas l'observatoire, mais elle est un petit peu en retrait par rapport à l'observatoire. Etc. Donc ça existe déjà pour moi, j'ai déjà pu m'immerger dans Smiley Face à ma façon.
Et j'avoue qu'un GTA où t'aurais cette espèce de concept, tu me diras, quand tu fumes et tu joues à GTA, tu es dans le même état que elle. Donc
exactement, et en plus de ça,
vidéo a cette capacité là.
Dans GTA, il y a des bongs et il y a de l'alcool, donc tu peux fumer dans GTA et boire, et ça te crée des.
Et après, ça te met des effets.
Ça fait des effets à l'écran, en fait, ça te fait des effets psychédéliques à l'écran. Donc c'est vraiment comme si il le savait.
toi, est-ce que tu es d'accord, j'imagine?
Ah, franchement, dur de trouver mieux que GTA V pour représenter Smiley Face en jeu vidéo. Ça serait dur. Sinon, je verrais juste un walking simulator, quoi, de base. Vraiment.
Ouais, c'est ça.
Un jeu narratif où tu te perdrais. Ouais,
avec les dialogues, genre, vraiment, il bouge à l'image.
Ouais, qui t'emmerde. Ah ouais, il t'emmerderait les dialogues. Tu marches, quoi. Tu te fais emmerder tout le long. Ça serait très chiant.
Est-ce que vous avez un détail qui tue dans le film? Un détail qui vraiment attire votre attention plus qu'autre chose?
Ah, moi, j'en ai un, gros. Si vous faites bien attention, dans le film, au début, la voix off dit comment Jane est arrivée du point A au point Z. Et le point Z, c'est parce qu'elle est donc à la fin sur un des wagons...
Une cabine, avec un Z
sur la roue donc de Venice Beach. Et en fait, quand la voix off dit voilà comment tout a commencé, etc., on repart sur la lettre A en plein écran. Puis, à un moment, apparaît la lettre B en plein écran. Puis, ça se réduit, la C, etc. Et en fait, ma théorie, c'est que pendant tout le film, il a caché les lettres. Elles y sont toutes, mais on les voit de moins en moins, il faut les repérer. Et donc, mon grand jeu, c'est de repérer les lettres. Dans l'ordre. Et j'arrive jusqu'à K Et après, je lâche, généralement, j'arrive, mon attention, elle est troublée par le film où il y a des trucs. Mais j'arrive à aller jusqu'à K, et de A à K, il y a toutes les lettres.
Arriver à K, t'es trop défoncé.
Bah, arriver à K, et puis il y a le film, il est trop bien, tu vois, aussi. C'est ça, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, le film commence vraiment. Et...
Bah, moi, écoute, j'ai un petit détail qui est lié. Elle reçoit de la root beer, parce qu'elle a fait une pub pour de la root beer. Et j'adore cette boisson, c'est un truc qu'on n'a pas en France, la racinette.
Ok.
Au Québec, ils appellent ça comme ça. Et voilà, j'aime bien ce détail qu'elle boit de la racinette.
Nice.
C'est un truc qui me plaît bien. Et toi, Alice, un petit détail qui tue ?
À un moment, quand elle se balade, elle percute un mec qui transporte une grande croix avec
Jésus, marqué
ouais. Kings of Herbs. Et j'aime bien parce qu'il y a tout un discours chez les stoners qui dit que bah, si Jésus aurait été un stoner, ce serait beaucoup plus simple. Et enfin, voilà quoi, Jésus, c'est un peu la culture du vin, donc de l'alcool. Et au final, tu te dis, ouais, si ça serait juste un peu plus comme les Rastafari, qu'on avait accepté un petit peu plus la marijuana en tant que produit qui peut aider à l'élévation. Des consciences, ouais. Ça aurait été pas mal.
Moi, ça me fait marrer. J'ai une phrase d'un pote dont je me souviendrai toute ma vie. On était défoncés un jour et on discutait. Et à un moment, on se disait, mais vous pensez genre que si tout le monde fumait, il y aurait des guerres? Et là, il m'a regardé et m'a dit, mais mec, on aurait trop la flemme.
C'est quoi? Il y a un sketch du film The Onion Movie. C'est exactement ça. C'est un sketch. Donc, c'est un film à sketch, The Onion Movie, qui a été appelé News Movie en France, mais qui est un plutôt bon film à sketch. Et il y a un des sketchs.
Ouais, comme si Gorafi avait fait un film.
Exactement,
c'est
ça. Et il y a un des sketchs, c'est justement deux pays qui s'embrouillent et qui sont sur le point d'être sur la guerre. Et en fait, pour faire le médiateur, ils vont chercher le plus gros hippie de manif, comme pas possible, en mode peace, les mecs, vraiment, faut pas faire la guerre. Et il les amène. Et en fait, il arrive vraiment à instaurer la paix entre ces deux États. Et jusqu'au moment où ils sont tous en train de fumer avec entre les deux chefs d'État et le stoner. Et en fait, au final, ils finissent par s'embrouiller pour une meuf et à se refaire la guerre, mais pour une meuf.
On va passer à un moment où on va statuer sur le film, messieurs, dames.
Ah.
Parce que voilà, c'est un truc important. On va devoir définir un peu les choses qui vont être gravées pour toujours. Qui vole le show dans le film? C'est pas très dur.
Anna Faris, c'est son film.
Elle a dit qu'elle voulait faire la suite.
Plans. Ah bah franchement, je l'accueillerai avec un grand plaisir.
Pareil.
Avec un grand plaisir. Donc pour le coup, qui est pour vous le grand perdant du film ou qui est moins mis en valeur?
Le capitalisme.
Ouais. Alors on n'a pas trop développé sur cette affaire, mais oui. Enfin, tu veux dire notre société actuelle,
notre
quoi,
système,
oui,
ouais.
Le capitalisme.
Ouais.
Notre système, ouais. Ouais, c'est pas une mauvaise théorie. Écoute, je l'accepte avec un grand plaisir. Est-ce que c'est le sommet de la carrière de quelqu'un? Dit comme ça, c'est pas évident.
Franchement, c'est dur pour elle parce qu'elle a prouvé, même encore récemment, dans la sitcom Mom et tout ça, c'est une très bonne actrice, Anna Faris, vraiment. Mais le pinacle de sa carrière, vraiment le rôle majeur de sa vie, celui pour lequel elle sera rappelée, et même après Scary Movie, c'est
Ah, mais elle le dit, hein, ouais. Les gens lui parlent plus de Smiley Face que Scary Movie. Dans la rue et tout. Oui, elle l'a dit en interview. Il y avait une interview pour l'anniversaire du film, je crois que c'était les 10 ans, il n'y a pas longtemps, quelque chose comme ça, ou les 15 ans. Et en gros, il y a eu une grosse interview de Greg Araki, et du coup, Greg Araki, en fait, avait expliqué que, justement, Anna Faris lui disait « On m'arrête plus pour ton film que pour Scary Movie, c'est ouf », tu vois, genre en mode...
Il y a vraiment un truc culturel, quoi, qu'elle a réussi à toucher avec ce film. Hein.
Et ouais, et les deux sont vraiment chauds pour refaire la suite, juste pour rebosser ensemble, en fait, c'est ça qui est ouf. Donc, j'ai vraiment envie qu'ils le fassent.
Est-ce qu'il y a une réplique qui vous a particulièrement marqué? Pour vous, c'est quoi la meilleure réplique du film?
Je suis raide défoncé, excusez-moi. Voilà, c'est juste Anna Faris dans la salle d'attente de son casting qui se rend compte que tout le monde la regarde et qui est juste comme ça, pas de filtre, et qui dit « Je suis raide défoncé, excusez-moi ». Et voilà, c'est tout.
C'est vrai qu'elle est très drôle, celle-là. Moi, j'aime beaucoup la phase où elle a un discours hyper, justement, sur anticapitaliste, sur un peu l'aliénation des gens et tout. Et après, on a la version qu'elle a vraiment dit, où c'est juste des « Bah ouais, en fait, c'était totalement baisé, quoi. » C'est un espèce de discours tout débile, genre juste avec des coups de « That's fucked up » and « Ouais, you know », tu vois, avec, genre totalement vide. Et je trouve que là, elle est excellente dans cette séquence et c'est une réplique qui me fait vraiment beaucoup marrer. Et ça, c'est des petits concepts comme ça. Il y a 2-3 concepts vraiment de stoner pur où ils arrivent à te mettre dans la tête du stoner. C'est des petits moments comme ça, le coup avec Garfield, c'est typiquement ça. Il y a des moments en voix off, justement, tous les moments avec la voix off, avec sa voix off, c'est des trucs de stoner pur et dur. Le moment où elle visualise aussi, par exemple, quand elle va acheter la drogue dans les toilettes et tout.
Mais le truc de la liste, le truc de la liste, c'est très stoner.
Le truc de la liste aussi.
La liste qu'elle refait tout au long du film, sa liste de choses à faire qui tient pas debout, quoi. Mais juste, elle est convaincue que son plan, il est sans faille, quoi. J'adore, c'est la confiance en soi.
Sa liste, elle écrit des Français.
Je suis trop intelligent, je vais y arriver, tu vois. J'adore, c'est un truc qui marche bien dans le film.
Ace, toi, ta réplique préférée, c'est la même que Punky?
Ah, vraiment, c'est la même que Punky. Enfin, je suis désolé, je manque d'originalité, mais j'arrive. Là, comme ça, à part ses réactions, vraiment, quand elle fait « Oh non !» C'est vraiment... je sais plus qu'est-ce qu'elle fait cramer. Elle fait cramer la première fournée de cupcakes, c'est ça. Et genre, vraiment, son « Oh non !» Il est tellement... Ah, putain, t'as de la peine pour elle. Vraiment. Et comme il disait, comme on en a déjà parlé avant, Dorothée Pousseau, elle a fait un travail en VF qui est incroyable. Excusez-moi, c'est dans ce sens. Putain, il passe trop bien. Claire.
Quand elle se rend compte, quand t'as la voix off, tu l'entends en voix off, et elle dit « C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de la composition des cupcakes. » Et qu'après, tu la vois, et c'est plus en voix off, c'est elle qui parle face caméra, et elle fait « Oh la conne !» Genre vraiment, c'est tellement drôle à chaque fois, et t'as la musique qui part derrière, et tu fais « Ok, donc le film, il commence, ça va être un voyage.
» Et alors, quelle est pour vous la meilleure séquence du film ?
Moi, ma séquence préférée, ça va être un peu original, mais c'est le générique. J'adore le générique de ce...
Ouais, il est en animation un peu flower power, psychédélique.
C'est ça, et en plus t'as tout ce qui va se passer par la suite qui est foreshadowé un peu dans le générique. Du coup, j'adore ce générique, je le trouve trop stylé. Et je peux juste regarder le générique, j'ai l'impression d'avoir vu tout le film dedans en fait. Et en plus, c'est encore une fois les Chemical Brothers, Star Guitar, donc ça défonce.
Et toi, Ace ?
Ah, c'est vraiment cette scène du matelas qui m'a marqué. En fait, c'est surtout quand elle se couche enfin dessus, parce qu'elle a enchaîné quelques galères et elle apprécie tellement de se jeter vraiment à plat ventre dessus, en mode il est confortable, vraiment elle s'enfonce. Je sais pas s'il y a pas un gros plan ou quoi où tu vois qu'elle s'enfonce un petit peu dans le matelas et tu le sens, tu vois vraiment l'apaisement, le petit nuage. Et même si elle a fait une connerie et que c'est mis dans la merde parce que le matelas il lui a coûté une blinde, Elle apprécie quand même, elle fait... Oh. Tu sais, t'as tout le stress accumulé, mais elle s'autorise quand même un petit moment de répit, et ce petit moment de répit, je l'apprécie vraiment, parce que c'est toute la mentalité stoner, c'est « Ok, t'as des soucis, mais vas-y, respire un coup, et tu vas trouver la solution, mais vas-y, tranquille. »
C'est ça.
Moi, j'avoue que j'aime beaucoup la séquence où on comprend pourquoi John Krasinski est amoureux d'elle. Et tu sais, c'est vraiment genre l'amour, le crush à 2 balles, quoi, qui est vraiment...
Mais c'est trop bien parce que j'aime bien l'image qu'ils ont fait de elle qui mange défoncé en plein milieu de la nuit et lui qui la surprend. Parce que en vrai, c'est réaliste, tu vois, il aurait pas pu l'avoir dans une position qui la mette en valeur. Parce que les stoners, ils s'en foutent, tu vois, ils se mettent pas en valeur, ils se mettent pas trop en avant, tu vois, c'est... Ils s'en battent un peu les couilles. Et il y a ce côté... ouais, voilà, il y a du monde chez elle. Elle s'en bat les couilles. Elle va chercher son espèce de taco surgelé, là. Elle le bouffe, mais vraiment, elle fait une gueule. On dirait qu'elle a pas mangé.
Ah, mais c'est le cheese. Tu vois, c'est le cheese. Et quand t'es stoner, tu connais.
Munchies.
C'est un concept.
Ah oui, c'est clair.
Mais Anne Faris joue très, très bien les munchies. Quand pareil, quand la daronne lui apporte un plateau avec du jus d'orange et des Tostitos, tu vois, et qu'elle te boit le verre du jus d'orange et qu'elle te mange les Tostitos, vraiment, tu sais, tu sens la vraie fonce d'âle.
Ah ouais, ça c'est clair. Surtout qu'il y a un vrai truc sur la beuh et le jus d'orange. Enfin voilà, Wiz Khalifa, il en a fait une chanson, elle est connue, hein, Clutch and OG, c'est pas pour rien, quoi. C'est vraiment.
Exactement.
C'est quelque chose, quoi. Bah, c'est quelque chose. Bah écoutez, toi tu m'as dit ou pas Oui, tu m'as dit le matelas.
Le matelas.
Est-ce que ce film rentre dans un top 3 particulier pour vous?
Ah, je sais que pour Funky.
Moi, il rentre sans doute dans un top, mais c'est une histoire que je réglerai dans un autre podcast. Puisque sur Some Stoner Stuff, le podcast que j'anime dédié au Stoner Movie, on classe les films. Et il n'a pas encore été classé, donc je ne peux pas révéler vraiment.
Ah bah après, ça peut être pour moi, je trouve que c'est un top 3 des meilleurs rôles d'Anna Faris, par exemple. C'est pas nécessairement un top 3 des Stoner Movie.
Ah hein, ouais, clairement.
Un top 3 en général.
Moi, je suis. Écoute, je suis plutôt d'accord avec ça. C'est dans le top 3 des films d'Anna Faris. C'est dans le top 3 des films de Greg Araki pour moi aussi.
Et top 3, peut-être des films sur Los Angeles. Il y en a beaucoup, hein, mais j'avoue qu'il me plaît particulièrement sur sa manière de dépeindre cette ville tentaculaire.
Plutôt d'accord.
Qui a un vrai désert et qui est compliqué d'aller d'un point à un autre.
La fin ne donne vraiment pas envie d'être à Los Angeles. La fin, vraiment, avec tous les déchets, l'autoroute qui est vraiment sableuse, désertique. Il a l'air de faire chaud. Et donc vraiment le film là, ça donne pas trop envie quoi.
Ouais c'est vrai, il y a ce côté. Après moi Los Angeles, je trouve que c'est une ville qui est captivante et j'aime bien la voir dans Smiley Face parce que c'est c'est un des seuls films où tu vois vraiment Los Angeles côté piéton, comme tu disais tout à l'heure, comment ça se passe quand t'es piéton, comment la ville s'active autour de toi et comment t'es moins rapide que tout le monde, tu vois. Et c'est un truc que on voit. Il y a un autre film qui le fait, c'est Chute libre, que j'aime beaucoup aussi et qui est dans mon top 3 aussi, donc je pense qu'il serait à égalité avec Chute libre dans cette dimension à échelle humaine de Los Angeles.
Réalisé par Joel Schumacher.
Hein.
Ouais, avec,
tout à fait, excellent film.
Voilà.
Vous voyez le Joker, c'est pareil mais en mieux.
Et toi, Aïs, il rentre dans un top 3 particulier?
Bah top 3 Anna Faris, ça c'est sûr. Top 3 Greg Araki aussi, et même top 1 pour Smiley Face. En tout cas, de mon point de vue, après, je peux comprendre que c'est parce que je suis un stoner, que mon avis est biaisé, et que j'ai du mal avec ces autres films, parce que comme je disais, c'est un peu des films odd aux autres drogues, normalement. Mais top 3 stoner, non. Top 3 stoner, non, parce que j'ai moins d'affect quand même qu'avec d'autres licences.
Eh bien écoutez, on est arrivé au bout de ce premier épisode sur les Stoner Movies. Je vous remercie énormément de m'avoir accompagné sur ce thématique et d'avoir choisi ce film. Ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir et de me replonger dans cette époque. Parce que moi, ça me rappelle vraiment le Canada et cette époque où j'étais un gros stoner. Donc mine de rien, c'était quand même une belle époque. Je me suis bien marré, je peux vous dire. On va rappeler un peu où vous trouvez sur Internet avant de vous quitter. Hein ? Où est-ce qu'on peut vous trouver sur Internet, messieurs ?
On me retrouve donc sur ma chaîne YouTube Punky et donc dans le podcast Some Stoner Stuff, qui est donc consacré aux Stoner Movies, ainsi que dans le podcast de La Case Rétro, dédié au rétro gaming.
Pas mal. Et toi, Ace ?
Moi, vous pouvez me trouver sur ma chaîne Hello Film, où j'analyse et critique des films. En ce moment, je suis sur les années 2000, mais il y a moyen que je change de temps en temps. Et de temps en temps sur Twitch, où je fais une revue de presse cinéma les jeudis matins et des reviews de bandes-annonces, en ce moment, les mardis soirs.
Et ben voilà, et ben moi c'est toujours pareil. Zoltan, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast, sur l'appli sur laquelle vous écoutez, et à le partager, ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci énormément de nous avoir écoutés, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode, et d'ici là, bonne toile.
Qui défendait le primaire, c'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence, et le rideau sur l'écran est au